Petit à petit, Aldric avança jusqu'à la tête du groupe. Il vit Sylvia. Elle dansait toujours avec sa vertigineuse vivacité. Elle dansait à tout casser. Son corps se tordait frénétiquement, s'agitait autour de sa taille. Elle sautait et elle bougeait. Elle refusait d'abandonner cette visibilité, ce moi que lui avait donné le carnaval. Elle se tenait en équilibre sur le roulement de ses hanches. Elle se baissait, se relevait sur un rythme ondulant. Elle levait les bras et bondissait comme si elle voulait échapper à son corps pour entrer dans son moi. Un moi dans lequel elle pourrait exister pour toujours. Il la regarda danser dans les profondeurs de la musique, dans les entrailles du carnaval, dans chacune de ses notes, dans son âme, dans la sonorité claire des cercles d'acier. Tout son être n'était qu'un appel, un hurlement, un rugissement, un cri, un cyclone de larmes célébrant son moi et priant pour que ce moi vive au-delà du carnaval et de son costume d'esclave. Il la regarda. La sueur lui coulait sur le visage, lui éclatait sur la peau, trempait son costume. Il voulait tendre le bras et la tenir, non pas pour la préparer en douceur à la fin prochaine du carnaval, mais pour la rejoindre dans sa grande danse extatique, dans son appel, pour tourbillonner avec elle dans le cyclone de larmes créatrices. Il voulait se perdre et se retrouver en elle, s'éloigner avec elle dans le tourbillon où il disparaîtrait dans le moi qu'elle rappelait, qu'elle évoquait, qu'elle suppliait. Il la regardait. Et devant cet appel à la vie, devant ce cyclone de larmes suppliantes et créatrices, il fut soudain frappé de trouver son dragon bien petit, avec ses griffes menaçantes et ses flammes, comparé au cri de la jeune fille. Il voulait lui donner la vie, lui donner son moi. Mais comment faire? Il savait menacer. Il lui fallait apprendre à vivre et à donner la vie. Cette pensée lui frappa l'esprit comme un éclair, et elle le rendit humble. Soudain, il voulut toucher Sylvia, lui dire par ce geste ce qui venait de lui être révélé. Il s'aperçut qu'il s'approchait d'elle. Il glissait entre les danseurs pour venir à ses côtés. « Sylvia !» Il tendit la main pour la toucher, pour recevoir sa bénédiction et pour lui donner la sienne, pour la soutenir et recevoir son soutien. C'est alors qu'elle le vit. Elle vit sa main droite tendue vers elle, et d'une pirouette, elle fut hors de portée. Elle se tourna vers lui, enveloppée d'un immense dédain.
Vous l'avez compris, chers auditeurs, cette émission est un peu particulière. On en a profité pour débarquer Nicolas. Bon, en fait, Nicolas, c'est plutôt le dentiste qui t'a fait ta fête. Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi. Oui, mais on a beau mettre le monde à l'envers, les yeux ont des oreilles, c'est aussi une voix grave et masculine, comme un exhausteur de goût pour faire ressortir nos propres timbres mélodieux.
Ça va trop loin.
Vous l'aurez compris, Nicolas nous manque un peu. Alors, comme c'est quand même Noël, on lui a proposé un texte de circonstance. Ce qui suit peut potentiellement endommager vos oreilles délicates. Après son opération, vous comprenez les consonnes, c'est un peu dur.
Luc 2, verset 6. Or, pendant qu'il était là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, en maillota, et les épouvoirs ont dû m'envoyer, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait, pour le même pays, des bergers, qui vivaient au champ et montaient à garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit, soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui fera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix pour ses bien-aimés. »
Donc la fête, finalement, c'est le moment licencieux par excellence, on l'a vu. C'est un moment hors des normes sur tous les plans. Sur le plan financier, par exemple, avec Gervaise dans l'assommoir, elle ne se ruine pas parce que dans le roman, elle est justement à l'acmé de sa réussite et donc elle se permet de donner une fête.
elle vend une robe au Mont-de-Piété pour pouvoir acheter du vin, en fait. Donc, pas tout à fait, non. Elle se ruine vraiment pour la fête.
Et c'est aussi pour... Enfin, ça a une, aussi une dimension sociale, puisqu'elle essaie de rendre jaloux les, ses voisins. Comment ils s'appellent, déjà?
Oui.
Les Lutilleux, c'est ça?
Oui, exactement.
Elle essaie de les rendre jaloux. Mais en même temps, la fête, c'est aussi un moment officiel. On pense aux fêtes nationales, etc. Les fêtes, c'est aussi un moment, un moment qui est marqué par l'étiquette et la cérémonie. Mmh. Alors, donc, il y a une sorte de contradiction entre la fête, qui est le moment de la transgression, et la fête par laquelle on fixe une identité, puisqu'on célèbre des moments qu'on définit comme importants dans une identité dite nationale ou autre.
En fait, moi, je ne vois pas vraiment de contradiction dans ce que tu as soulevé, parce que, justement, le règne de la transgression et le règne des fêtes plus ou moins officielles, qu'elles soient religieuses ou autres, on l'a vu dans le premier texte de Kaiwa, c'est aussi une manière de se rapprocher du sacré, tout simplement, d'obtenir un sacré quelconque. Alors, par la transgression, pourquoi pas. Et puis, le sacré des fêtes religieuses, on peut penser au mariage, etc. Et c'est une manière pour les hommes de sentir, en un sens, peut-être des dieux, pour un moment, justement. Enfin, c'est, je pense, la manière dont Kaiwa l'envisage. Une parenthèse par laquelle on essaie d'atteindre ce qu'il appelle donc cette métamorphose de l'être.
Et est-ce que justement, avec la fête nationale, on n'a pas justement la recherche d'un moment de liesse collective dans le but justement de célébrer la nation de façon commune, en fait? C'est un moment de rassemblement, certes joyeux pour sur un motif officiel, mais vraiment de liesse collective.
Et dépourvu du coup de la dimension transgressive qu'il peut y avoir dans le carnaval, par exemple.
Donc oui, une fois n'est pas coutume, la régie a quelque chose à dire, comme la dernière fois. Moi, je voudrais juste dire que c'est peut-être ce qu'il y a de transgressif dans la fête, c'est justement le rituel, parce qu'un rituel, c'est un ensemble de pratiques qui sort de l'ordinaire. On le voit dans le texte de Gatsby, par exemple, où c'est pas une fête religieuse, mais il y a toute cette dimension rituelle où on prend la voiture, on va à un endroit, il y a une certaine étiquette. Et c'est pareil dans une fête nationale, il y a cette dimension rituelle, c'est quelque chose qui intervient qu'une fois par an, et donc qui est exceptionnel dans son déroulement. Et je pense que c'est... Enfin, moi, je le vois juste comme ça, la transgression dont tu parlais dans la fête, dans cette dimension rituelle, qu'elle soit religieuse, civile ou pas.
À ton avis, le seul fait que ce soit exceptionnel suffit à lui donner une dimension transgressive? Parce qu'il y a quand même une différence entre le fait que ce soit transgressif et le fait que ce soit exceptionnel ou ponctuel.
Moi, je disais juste que c'était transgressif, pas forcément dans un sens péjoratif, mais vraiment parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude.
Une rupture avec le quotidien.
Voilà, c'est une rupture avec le quotidien. On rompt une norme même quand on fait une fête. Il y a une volonté de rompre une certaine norme. La fête de Gervaise, c'est pour rompre une certaine norme sociale aussi. Mmh. C'est pour se sortir un petit peu de ce milieu social dans lequel elle est enracinée. Et donc, dans la suite du roman, elle tombe et elle chute encore plus.
Toute l'ironie, je crois, du texte de Zola, c'est qu'elle essaie de sortir de son milieu social, disons, alors qu'il revient un peu au galop dans le texte, parce qu'on voit la manière dont se comportent les invités à ce festin.
Je tiens à préciser qu'au début du chapitre, il précisait qu'en fait, alors, elle a un mari qui est alcoolique, oui, qui dépense tout leur argent dans l'alcool, et elle, ce qu'elle dit, c'est que finalement, autant qu'elle en profite, elle aussi, elle dit plutôt enrichir le boucher que le marchand de vin, c'est-à-dire, elle est contente de dépenser son argent pour cette fête, parce qu'elle sait que cet argent qui va être dépensé dans la nourriture, et aussi l'alcool, mais bon, sera pas dépensé par son mari, finalement, au bistrot. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas énormément évoqué, si ce n'est par le thème du carnaval, c'est peut-être justement le fait que dans cette rupture du quotidien, on a aussi une rupture avec son identité quotidienne et la notion de travestissement.
La fête comme moment où tout est possible.
Voilà, où finalement on se donne une identité autre, en fait.
Voire on révèle son identité véritable par le biais du masque.
Oui,
et le masque qui révèle plus qu'il ne cache, etc.
Oui, la fête déguisée également, dont on n'a pas parlé.
Il y a de très beaux passages chez Shakespeare, dans ses comédies notamment, où il y a énormément de fêtes comme ça, de bals masqués, où les personnages en profitent pour réellement se dire ce qu'ils ont toujours envie de se dire. C'est-à-dire qu'ils s'aiment, mais sous couvert justement de la fête. Et c'est une manière tout à fait détournée de parvenir à la vérité par le biais des masques. Donc c'est très intéressant aussi.
L'angliciste a parlé. Je trouve que, bizarrement, la fête, c'est jamais un moment perçu comme positif dans les textes. Enfin, c'est rarement perçu comme positif. C'est un moment d'excès. Et parfois, il y a souvent des accents un peu moraux dans les textes qui parlent de fête. S'il n'y a pas d'accent moraux, il y a souvent une dimension un peu animale, vous savez, dans l'excès, etc. Mmh. La gloutonnerie, par exemple, dans le texte de Zola, si on y revient.
Alors, justement, j'allais dire que le petit paradoxe, quand même, c'est que d'un côté, on pourrait croire que c'est vraiment un phénomène social, la fête. C'est une occasion de se retrouver, un moment de sociabilité. Et en même temps, on pense, voilà, comme tu l'as dit, on revient à une nature un peu animale de l'homme.
Primitive.
Voilà, un peu primitive, justement. Alors même qu'on pourrait croire que c'est, voilà, comme c'est un moment de sociabilité particulier, on pourrait croire que c'est aussi associé à la civilisation. Et je pense que c'est un paradoxe qui est en œuvre avec cette notion de fête.
La manière dont c'est aussi écrit dans les textes, c'est que donc on a cet aspect primitif qui refait surface, mais on a aussi très souvent le sentiment que c'est un moment justement passager qui rompt certes avec le quotidien, mais qui va nous mener in fine de nouveau au quotidien et à la vie de tous les jours. Et on a cet aspect un peu à la fois nostalgique, un peu morose, qui cohabite tout le temps dans les textes. Je pense à Gatsby par exemple, puisqu'on a quand même, on sent qu'il y a beaucoup de superficialité derrière tout ça. Il y a d'autres textes de Boris Vian par exemple, qui était un grand fêtard, ou alors Hemingway qui a écrit Paris est une fête. Et on a toujours ce sentiment un arrière-fond un petit peu doux-amer, puisqu'on sait très bien qu'on va en profiter, mais que ça a une fin. Donc c'est vrai que la fête n'est jamais très festive dans les textes. J'ai du mal à trouver un texte qui présenterait la fête comme un phénomène totalement positif, au-delà de l'animalité ou de la nostalgie. Il reste à inventer, peut-être. Auditeur, vos propositions ou à vos plumes.
Vous pouvez commenter sous ce podcast pour nous faire part de vos suggestions. Non, mais c'est vrai que l'ivresse de la fête est plus évoquée du point de vue de la gueule de bois qui s'ensuit. C'est une espèce de nostalgie de la fête. Le lendemain de la fête, c'est toujours un peu triste. C'est jamais complètement joyeux.
Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode de la saison 2 de Lésions des oreilles, un peu chamboulé pour l'occasion. On espère vous avoir arraché le temps de l'émission au quotidien hivernal de ces derniers jours. Et on espère aussi vous avoir presque donné envie, là tout de suite, de boire du champagne. Merci à Clément à la régie, qui a très stoïquement assisté à tous nos délires, impassible, très professionnel comme toujours. Merci à sa participation aussi. Merci à Mathilde et à Gère, qui ont très volontiers accepté de se plonger le temps de l'émission, je vous rassure, dans la débauche et la licence, pour la préparation, les conseils et les lectures. Mais surtout, merci à Nicolas, héroïque malgré les consonnes, auteur d'un massacre biblique de plus dans la grande tradition de Willem. Il va bien sûr de ce pas remettre de l'ordre dans l'émission. On lui souhaite aussi un bon rétablissement. Et à vous, chers auditeurs, toute l'équipe vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes. On espère que vous profiterez comme il se doit des réjouissances qui s'annoncent, et aussi que vous trouverez de la littérature sous le sapin. N'oubliez pas, lire est une fête, qu'il s'agisse d'un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles. Copyright Camille. On se retrouve donc tous en 2015, mais avant cela, retour dans un passé primitif et pour le moins déchaîné.
Les vapeurs de l'ivresse, l'obscurité de la nuit, le mélange des sexes et des âges eurent bientôt éteint tout sentiment de pudeur, et l'on s'abandonna sans réserve à toutes sortes de débauches. Chacun trouvait sous sa main les voluptés qui flattaient le plus les penchants de sa nature. Le commerce infâme des hommes et des femmes n'était pas le seul scandale de ces orgies. C'était comme une sentine impure d'où sortaient de faux témoignages, de fausses signatures, des testaments supposés, de calomnieuses dénonciations, quelquefois même des empoisonnements et des meurtres si secrets qu'on ne retrouvait pas les corps des victimes pour leur donner la sépulture. Souvent la ruse, plus souvent encore la violence, présidait à ces attentats. Des hurlements sauvages et le bruit des tambours et des cymbales protégeaient la violence en étouffant les cris de ceux qu'on déshonorait ou qu'on égorgeait.